Avec Marie, mère de l'Église, je suis venue pour servir. Monseigneur Emmanuel Lafond, vous avez déjà beaucoup servi. Vous avez servi en étant membre de la JOC, vous avez servi en Afrique du Sud pendant de longues années et maintenant vous continuez à servir en Guyane. Le fil rouge de votre parcours.
Je dirais les doubles. D'abord, je suis un fils de Vatican II parce que je suis arrivé comme séminariste à l'âge de 17 ans, ici, à Rome, 11 jours avant l'ouverture du Concile. Et donc, d'emblée, le monde et le caractère universel de l'Église m'a sauté à la figure et ne m'a plus quitté. Ça, couplé avec le fait qu'à la Grégorienne, nous étions de 80 pays différents, m'ont définitivement convaincu que la France était quand même tout petit et que il était bon d'aller ailleurs, non pas pour porter la bonne nouvelle, mais pour être enrichi par les autres cultures, par les autres façons de voir, par l'Église telle qu'elle est dans ses différents visages. Donc ça, c'est le premier fil conducteur qui fait que, d'ailleurs, après les 4 années de séminaire, qui étaient les 4 années du Concile, je suis parti faire mon service sur la Jeanne d'Arc, c'est-à-dire un bâtiment qui m'a entraîné tout au long de l'Amérique du Sud et de la Méditerranée, ce qui m'a encore ancré dans cette soif de voir le vaste monde et qui en même temps m'a fait immédiatement toucher du doigt cette pauvreté dont les pères d'Amérique du Sud avaient parlé au Concile. Parce que les favelles de Rio et de Valparaiso, les barriadas de Lima, tout ça aussi, ça m'a sauté à la figure, si j'ose dire. Et quand je suis rentré de ce service, j'ai terminé mon temps militaire à Brest et là j'ai rencontré la JOC. Les jeunes ouvriers chrétiens. Et à l'époque, la fédération de JOC de Brest était très forte. En plus, c'était entre septembre 67 et juin 68. Vous voyez ce que cela comprend. Donc là, à la fois l'ouverture du Concile, l'universalité, la pauvreté et l'audace de ces jeunes travailleurs qui, sans avoir toute l'éducation qu'on pouvait avoir, voulaient vivre leur foi et lisaient la Bible à partir de leur vie, de leur expérience. Voilà, c'est là-dedans que je peux expliquer pourquoi j'ai travaillé avec la JOC ici à Rome quand je suis revenu faire des études. Puis à Tours, pourquoi j'ai demandé à sortir de France pendant un certain temps et je l'ai fait envoyer en Afrique du Sud à l'appel de la JOC. Je suis arrivé en Afrique du Sud pour être aumônier régional de la JOC et c'est elle, si j'ose dire, qui a demandé à l'évêque de me nommer à Soweto. Et à la suite de l'Afrique du Sud où je suis resté 13 ans, j'ai été rappelé à Paris pour les œuvres pontificales missionnaires et j'en ai profité pour aller me promener dans les 5 continents du monde. Et sans doute, ça n'est pas étranger au fait que on m'est envoyé en Guyane ensuite.
Alors l'Afrique du Sud, vous étiez en pleine apartheid.
Oui, ça a été un moment intense du début à la fin. Et une œuvre de conversion qui n'est pas complète mais qui a été très forte. D'abord, je me suis retrouvé d'emblée sur un continent spiritualiste. Alors que je sortais d'un continent matérialiste et marqué dans les années 70 par des idéologies très fortes qui ne m'avaient pas laissé indemne non plus. Et donc j'ai retrouvé d'emblée un continent dans lequel, au fond, croire en Dieu faisait partie des choses à peu près évidentes et ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, un peuple africain noir qui vivait l'apartheid et qui m'a accueilli. Vous savez, vous n'avez pas de mots pour exprimer cela. Quand j'ai été nommé curé d'une paroisse à Soweto, ils ont fait une fête qui a duré 5 heures. La messe a duré 2 heures, puis 1 heure et demie pour nous donner des cadeaux au prêtre qui s'en allait et à moi qui arrivait, qui était blanc. Je remplaçais un prêtre noir, puis un repas où toute la paroisse a mangé. Et à la fin, je vois une dame qui s'approche, qui me dit « Mon père, comment as-tu trouvé la fête ?» Moi, je n'avais pas de mots. Et je me disais « Mais quel est donc mon collègue français qui a une fête comme ça en arrivant dans une paroisse ?» Et elle me dit « Nous, les Africains, quand on reçoit, on fait la fête. Ce que tu as dans le ventre, on n'en sait rien, on verra bien. » Mais aujourd'hui, on voulait te dire, tu es le bienvenu. Ben vous savez, quand vous êtes au cœur de l'apartheid, que vous êtes blanc comme un linge, et que ce sont ces gens qui sont sous ce joug porté par vos frères de couleur qui vous accueillent comme cela, c'est évidemment, ce sont des marques très fortes. Alors très vite, je me suis trouvé accompagnant un peuple qui se battait. Une JOC et des jeunes JOCI, des jeunes travailleurs qui se battaient et qui en payaient le prix. Quand je suis arrivé à Soweto, le responsable régional était en prison. La première équipe de jossistes que j'ai créée à Soweto a été infiltrée par 2 membres de la police, jeunes. Quand vous voyez des gens qui se battent comme cela et qui frôlent la prison, la persécution, vous ne pouvez pas vous dire « moi je reste au bord du chemin et je compte les points ». Si bien que lorsque des frères, protestants d'ailleurs, m'ont invité à participer à un groupe œcuménique de prêtres et de pasteurs qui s'intéressait à manifester une solidarité active avec le peuple, eh bien je suis rentré dedans. Comme la JOC était à peu près inconnue et pas comprise, ni de mes frères prêtres, ni de l'évêque, j'ai demandé une paroisse pour avoir, si j'ose dire, une reconnaissance et aussi pour avoir un lieu où laisser un livre dans Soweto. Car jusque-là, je vivais à l'extérieur et je n'avais pas de quoi offrir un café à des jeunes qui venaient me voir. Donc j'ai eu une paroisse et j'ai trouvé que dans la sacristie, il y avait un lit et j'ai décidé d'y habiter. Et voilà, donc j'ai été petit à petit, si j'ose dire, emmené à vivre une solidarité concrète, active, avec ce peuple en lutte pour se débarrasser de l'apartheid. Et j'ai participé à un certain nombre de luttes, de démarches, soit en faveur de jeunes arrêtés, soit pour enterrer des personnes tuées par la police, soit pour protéger des gens qu'on expulsait de leur maison à cause du boycott des loyers, soit pour tout un tas de raisons. Nous n'avons pas cessé pendant 5 ans d'être appelés à la rescousse parce que les églises étaient à peu près à l'époque les seuls lieux qui étaient encore ouverts, les seuls lieux où les gens pouvaient se retrouver. Nous avons fait dans les années 86-87 des rencontres de prière où en réalité on priait 10 minutes et puis on discutait 2 heures de la situation parce que c'était le seul lieu. Et encore pas toutes les églises naturellement, mais celles qui acceptaient d'être ouvertes devenaient le lieu où le peuple pouvait se retrouver, soit pour prier, soit pour enterrer ses morts, soit pour retrouver courage, soit pour envisager quelle action mener pour se protéger au maximum et participer à la destruction de l'apartheid.
Votre expérience de l'Afrique du Sud, comment est-ce qu'elle vous sert aujourd'hui en Guyane ?
Bon, la Guyane, elle a ceci de commun avec l'Afrique du Sud, si j'ose dire, qu'elle est multiculturelle. Que nous avons, nous aussi, des liturgies en langues différentes. Une population de moins de 240 000 habitants, nous utilisons 4 langues régulièrement pour la liturgie. Et ce sont des langues qui correspondent à des cultures. Le portugais ou le brésilien pour les communautés d'origine brésilienne, le mong pour les communautés mong qui viennent du Nord-Vietnam ou du Laos, et dans l'ouest de la Guyane, là où se trouve une population très africaine, encore aujourd'hui par sa culture et son mode de vie, le Bushtongo, la langue de la brousse, qui est un créole d'origine anglophone, anglo-saxonne, néerlandaise. Donc là, je me retrouve avec les mêmes défis d'interculturalité. L'expérience de Soweto, où je devais dire la messe aussi en différentes langues, m'aide beaucoup. Le respect des différents groupes culturels à l'intérieur d'une paroisse, l'accueil fait à tous, la reconnaissance de la présence de chacun sont des choses qui doivent grandir encore en Guyane, même si ça ne correspond pas tout à fait à la mentalité française qui dirait assez facilement, puisqu'ils sont en France, qu'ils deviennent français. Au fond, la Guyane, comme l'Afrique du Sud, c'est un peu un microcosme du monde, c'est-à-dire il y a des très riches et des extrêmement pauvres, et qui sont évidemment en nombre beaucoup plus grand que les très riches. Et donc, il y a une attention à porter à une situation sociale très difficile. Le chômage en Guyane, c'est 25%. À peu près 100 000 personnes sont en état de survie. Alors, on ne meurt pas de faim en Guyane, parce que la nature est généreuse, mais on vit dans des huttes. Donc, il y a un besoin d'être proche des populations en état de pauvreté que l'Église se doit d'honorer encore mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et puis, nous avons un problème d'immigration très grand, hein, puisque nous avons, sur 220 000 habitants, 80 000 personnes étrangères, dont un tiers sont sans papier, sont en situation irrégulière. L'Église se doit d'être proche de ces gens-là et de faire qu'ils soient traités humainement, même lorsqu'ils ne correspondent pas au canon de la loi de la République. Figurez-vous qu'une Haïtienne a perdu 3 enfants qui ont brûlé dans son bidonville. Le 4e était chez une voisine. Elle a tout perdu, sauf son 4e enfant. L'Arbre fromager, qui était une association d'assistance aux femmes battues et en danger, me téléphone pour me demander de la loger un week-end, car ils n'ont rien. J'accepte. Cette femme était d'une dignité exceptionnelle. Mais au petit déjeuner, elle se trouve dans la salle à manger qui est la mienne, où il se trouve qu'il y a des photos d'Afrique du Sud. Et alors elle voit une de ces photos et elle me dit, alors là, une larme coule de ses yeux en disant, tu vois, j'habitais dans un bidonville comme ça. Et puis elle me dit, on se tutoie facilement là-bas. Tu sais, en Haïti, il m'est arrivé de passer 3 jours sans manger. Ici, ça ne m'est encore jamais arrivé. Le contexte de l'immigration, c'est d'abord celui-là. Beaucoup de gens émigrent parce que c'est au titre du désespoir qu'ils quittent leurs racines, leur culture, leur pays, leur famille, pour essayer de survivre. Il m'est arrivé, une fois ou l'autre, de rendre de devoir parler publiquement lorsque des maisons ont été détruites alors que ces personnes y habitaient depuis 5, 6, 8 ou 10 ans et qu'on a fait ça sans prévoir aucune alternative. Donc vous avez des gamins qui rentraient de l'école où ils sont régulièrement inscrits, qui découvrent que leur chambre est détruite. Donc il y a des moments où il ne faut pas parler tout le temps non plus. On ne peut pas dénoncer tout parce qu'on ne peut pas être une caisse de résonance de toutes les difficultés ou déficiences, ce n'est pas non plus le but. Mais le but est quand même d'éclairer les consciences, d'être la voix des sans-voix quand il le faut et puis d'accompagner quotidiennement pour que les choses soient les plus humaines possibles dans une situation qui, de toute façon, n'est satisfaisante pour personne.
Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire ?
L'homme et la personne humaine est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre. Et que nous sommes faits pour vivre ensemble. Et que c'est en vivant ensemble et en nous donnant la main que nous trouvons le véritable bonheur. Le véritable bonheur n'est pas dans l'accumulation des richesses, ni du pouvoir, ni d'un plaisir frelaté. Le véritable bonheur, c'est de faire ensemble face aux défis inévitables que la Terre produit pour chacun d'entre nous. Et que c'est ça le cœur de l'Évangile. Et que c'était ça le secret d'un certain nombre de gens que nous avons admirés ou que nous admirons. Et je souhaite que les gens retrouvent le bonheur à la manière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je citerai juste cette phrase de Sainte Thérèse que je trouve fulgurante. « J'ai décidé de passer ma vie à rendre service. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais été malheureuse. » Autrement dit, quand elle a cessé de se regarder elle-même pour regarder autour d'elle avec compassion, avec empathie et avec amitié, elle a trouvé la source du bonheur véritable.